Bonjour, pénurie de logements dans les grandes villes, flambée des loyers, l'habitat promet d'être l'un des sujets chauds de la campagne pour les fédérales de cet automne. Christian Favre nous dira que le manque de logements vacants n'est pas le seul responsable de la situation. Les Suisses veulent aussi plus d'espace et moins de promiscuité. Décryptage avec Philippe Thalmann, président de la Commission fédérale du logement. Beaucoup de finances et d'économies dans ce journal. Nous verrons avec Esther Coco que les mauvais résultats du Crédit Suisse se traduiront par la suppression de 2000 emplois. Jérôme Jeannin nous parlera d'Orange qui souhaite quitter le marché helvétique de la téléphonie mobile et nous recevrons le porte-parole de Suisse, Jean-Claude Donzel, qui publie des chiffres réjouissants. Une voix aérienne portée par de la pop aux accents jazzy, la valaisanne Onesia Rittner, 24 ans, a sorti il y a quelques semaines un premier album prometteur. Elle sera en concert demain au Freundstimmen Festival de Brigand-Vallée. Elle nous parlera de son parcours, de ses influences et de ses projets à venir à la fin de ce journal. Météo, ça s'améliore doucement. Le temps restera mitigé cet après-midi avec alternance de nuages, d'averses et d'éclaircies pour un mercure plafonné à 21 degrés. Un peu plus de soleil demain et samedi avec risque d'orage en soirée. Le temps restera sec dimanche et lundi, mais quelques gouttes pourraient tomber en fin de journée sur les reliefs, nous dira Eric Fauchère. La quête d'un logement a souvent des allures de parcours du combattant dans les grandes villes, mais ce n'est pas seulement à cause du manque d'appartements ou de maisons vacantes. Notre appétit en matière de mètres carrés ne cesse d'augmenter et les Suisses aiment aussi habiter seuls, Christian Favre.
Oui, c'est un constat confirmé par les chiffres de l'Office fédéral de la statistique. En 1920, seuls 2% des Helvètes vivent seuls. Lors du dernier recensement général de la population en 2000, ils sont 36%. Jusque dans les années 50, il s'agit d'étudiants ou de bonnes dans des chambres mansardées. Dès les Trente Glorieuses, la forte évolution du train de vie et l'individualisation de la société inversent la tendance. Selon des chiffres publiés par une enquête de la NZZ Online, en 1970, Zurich compte davantage de studios d'une pièce que d'appartements familiaux. On a évoqué l'individualisation. Aujourd'hui, ce sont aussi la mobilité, le très élevé taux de divorce ou encore le vieillissement de la population qui pousse cette statistique vers le haut. On voit par exemple toujours plus de veuves ou de veufs vivre leurs vieux jours seuls dans l'appartement ou la maison familiale. Note encore que dans les années 60, la moyenne d'habitants par logement était de 3 personnes, quasi deux fois plus qu'aujourd'hui, selon une estimation de l'OFS publiée en 2009. De quoi porter un regard un peu différencié sur la crise du logement qui affecte depuis plusieurs années les grandes villes du pays.
Christian Favre, en direct de nos studios du Palais fédéral à Berne. Bonjour Philippe Thalmann.
Bonjour, oui.
Professeur d'économie à l'EPFL et président de la Commission fédérale du logement. Dans le débat actuel autour de la pénurie, la hausse des prix, on met volontiers aussi la faute sur la libre circulation des personnes. C'est le cas notamment à Zurich avec l'arrivée de travailleurs allemands qui ont un fort pouvoir d'achat. Mais il faut aussi prendre en compte les standards et le besoin de confort des Suisses.
Oui, tout à fait. Mais surtout que cette pénurie, elle existait déjà bien avant l'arrivée des Allemands à Zurich. Zurich a toujours connu un taux de logements vacants extrêmement faible. Avant, c'était simplement l'augmentation des revenus qui permettait à la population d'occuper des logements toujours plus grands. Elle a toujours dépensé entre 15 et 20% de son revenu pour le logement. Quand les revenus ont augmenté, on a simplement acquis des logements plus grands. Maintenant, avec l'immigration allemande, c'est en train de casser ce mécanisme qui permettait un confort accru un peu chaque année. Et c'est là qu'il y a le problème. Mais disons que la pénurie, elle existe malgré l'arrivée des Allemands.
Ce besoin de mètres carrés, c'est un luxe, on va dire, hérité des années d'après-guerre?
Moi, je crois pas. Je crois que c'est vraiment... si on regarde les répartitions des budgets des ménages, le logement occupe toujours à peu près 20%. Donc, simplement, c'est l'augmentation des revenus. On répartit ça entre vacances, entre besoins de base, et puis aussi le logement, et on se permet des logements plus grands. Ce qui marche aussi très fort, c'est l'accession à la propriété. Vous avez vu qu'on est de plus en plus propriétaire en Suisse. Pratiquement, les deux tiers de ce qui a été construit depuis 2000, c'est des logements en propriété, surtout des appartements en propriété par étage, et ils sont toujours plus grands. Un propriétaire en 2000 occupait 50 mètres carrés par personne, un locataire 40 mètres carrés.
On peut y voir aussi une marque de richesse et de modernité, et peut-être aussi une société qui s'individualise un peu.
Alors, je suis pas sûr d'y voir quelque chose de vraiment volontaire. Je crois que, contrairement à ce qui a été dit dans votre reportage, ces personnes seules, c'est pas toujours un choix. C'est parfois, effectivement, parfois on a même une résidence secondaire, c'est un choix, mais très souvent, c'est simplement l'évolution, le vieillissement de la population, évidemment, les séparations qui sont pas toujours voulues, bien sûr. Et puis, il y a une partie aussi de faible mobilité qui est responsable de ça. J'ai regardé l'immeuble dans lequel habite ma belle-mère à Sierre en 1972, 11 appartements, 36 habitants. Et aujourd'hui, la même chose, 20 habitants. Et je crois que c'est un peu la norme, hein. Les gens partent, les familles, les enfants quittent, les familles se séparent, les personnes décèdent, et puis on se retrouve et on ne change pas forcément de logement.
Est-ce que vous pensez qu'on va devoir quand même, tôt ou tard, être moins exigeant sur nos besoins d'espace, se contenter de logements, on va dire, plus modestes?
Alors c'est un peu la question de la densification, respectivement de l'étalement urbain. Si on sacrifie le territoire agricole ou naturel, on va dire, à la construction d'habitats, on n'est pas obligé. On peut continuer à augmenter notre confort, qui est quand même quelque chose de positif, hein, n'oublions pas. Par contre, en même temps, quand je dis que c'est quelque chose de positif, c'est une moyenne. Il y a des personnes qui dépensent bien plus que 20% de leurs revenus pour se loger et qui n'ont pas du tout ces hauts niveaux de confort. Faut jamais l'oublier.
Merci beaucoup, Philippe Tellmann, d'être venu dans ce journal, professeur d'économie à l'EPFL, président de la Commission fédérale du logement, invité par Christian Favre. Bon après-midi à vous. Merci.
Merci, au revoir.
Crédit Suisse supprime 2000 emplois, 500 en Suisse et 1500 dans le reste du monde. Des mesures imputables à la baisse de la moitié de son bénéfice net trimestriel à 768 millions de francs. La deuxième banque helvétique explique ce résultat décevant par un environnement économique difficile, des bourses moroses et un franc suisse toujours trop fort. Esther Coco.
Le titre Crédit Suisse perd presque 3% à la bourse ce matin, signe que les investisseurs sanctionnent ce résultat. Il faut dire que le secteur banque d'investissement de Crédit Suisse, soit les activités de trading sur actions et obligations, fait encore moins bien que celui d'UBS qui avait déjà déçu mardi. 231 millions de bénéfices nets, une performance en baisse de 80% par rapport au premier trimestre. L'affaiblissement du dollar face au franc a pesé lourd dans ce résultat, mais il faut dire aussi que Crédit Suisse détient davantage d'obligations adossées à l'immobilier résidentiel américain, des titres dont les clients se sont détournés vu la croissance économique anémique aux États-Unis. Brady Dugan, le directeur général de Crédit Suisse, déclare ne pas remettre en cause le modèle de banque intégrée qui allie gestion de fortune et banque d'investissement, mais il tire les conséquences des piètres performances des marchés. Il coupe dans ses effectifs pour économiser 1 milliard de francs.
Les postes concernés par les licenciements sont répartis dans le monde et à travers toutes nos unités. Nous avons estimé qu'ici en Suisse, 500 postes seraient supprimés, tous secteurs confondus. Nous prenons évidemment très au sérieux l'impact sur le personnel. Et nous allons travailler dur pour trouver des solutions et essayer de replacer tout le monde. Nous l'avions déjà fait dans le passé, et ça avait bien fonctionné.
Crédit Suisse a toutefois réussi à engranger 14 milliards d'entrées nettes d'argent frais, 11 milliards dans sa division en gestion de fortune. C'est mieux que la performance réalisée par UBS, mais le bénéfice net ne s'élève qu'à 843 millions de francs, amputés de 24% par le franc fort. Crédit Suisse fait actuellement face à une enquête pénale du département de justice américain pour ses activités transfrontalières. Brady Dugan dit prendre l'affaire très au sérieux et tout mettre en œuvre pour trouver une solution. On n'en saura pas plus. Le patron de Crédit Suisse affirme par ailleurs qu'il ose toujours voyager aux États-Unis.
Le Swatch Group a réalisé un chiffre d'affaires brut de 3,3 milliards de francs au premier semestre 2011, en hausse de près de 11% par rapport à la même période de l'an dernier. Le bénéfice net du géant horloger biennois atteint 579 millions, soit une augmentation de presque 25%. Orange bientôt aux abonnés absents. France Télécom annonce ce matin avoir entamé un processus destiné à vendre les activités de sa filiale helvétique. Pas vraiment une surprise après le refus de la commission de la concurrence en avril 2010 d'autoriser le rapprochement avec Sunrise. Jérôme Journin.
Ouais, les numéros 2 et 3 de la téléphonie suisse avaient annoncé leur fiançailles, mais la Comco s'y était opposée par crainte de position dominante. Selon un porte-parole de France Télécom, ce veto controversé a sapé le potentiel de croissance d'Orange sur le marché suisse, un marché déjà très restreint à l'échelle européenne. La vente s'inscrit également dans un contexte stratégique plus large pour France Télécom, qui a annoncé ce matin une chute de son bénéfice de plus de 47% au premier semestre. Le groupe veut recentrer ses activités sur ses filiales les plus rentables, en Europe, mais également en Afrique, où se trouve le potentiel de développement le plus important. À l'instar du Portugal, de l'Autriche également, la Suisse n'entre plus dans ses objectifs. Orange ne veut plus se contenter d'être le numéro 3 sur le réseau mobile et de ne compter que 9000 clients sur le réseau fixe. Du côté de la Comco, pas d'inquiétude, on y voit plutôt une chance pour la concurrence si le futur repreneur est une grande entreprise à gros potentiel. Le conseil d'administration de France Télécom se réunira à la rentrée pour examiner les offres sur la table. D'ici là, c'est une période d'incertitude qui s'annonce pour plus de 1100 collaborateurs. Le syndicat Un syndicat a déjà exigé que la transaction n'entraîne pas de suppression d'emplois et que le repreneur continue à investir dans l'infrastructure.
Suisse a doublé son bénéfice au premier semestre 2011 par rapport à la même période de l'an dernier, malgré le franc fort et la cherté du kérosène. La compagnie prévoit de développer ses activités à Cointrin avec une liaison Genève-Nice et le renforcement des vols vers Madrid, Moscou ou Londres. Bonjour Jean-Claude Donzel.
Bonjour.
Porte-parole de la compagnie suisse, développement des activités à Cointrin, vous faites marche arrière finalement par rapport à la période suissaire?
Non, on ne fait pas marche arrière, on fait une marche en avant qui a commencé en 2006 avec Suisse. Le moment auquel, disons, les opérations au départ de Genève sont devenues rentables et nous avons cessé d'augmenter nos avions positionnés sur le tarmac genevois. À partir du mois de février, ce seront 10 avions qui seront positionnés à Genève.
Vous avez aussi moins de contraintes à Genève qu'à Zurich où les restrictions de vol sont plus nombreuses. C'est une des raisons de ce développement sur le versant roman?
Non, la raison principale, c'est que nous croyons en ce marché roman, arc lémanique, France voisine. Les vols point-point au départ de Genève sont une bonne affaire. Nous n'avons pas l'intention de développer un hub au départ de Genève, mais bien sûr de renforcer notre présence sur le tarmac genevois.
Vous publiez en tout cas de bons résultats alors que beaucoup d'entreprises souffrent du franc fort. Comment est-ce que vous l'expliquez?
Oui, c'est peut-être difficile à expliquer. En fait, effectivement, le francfort n'est pas favorable à Suisse en ce moment pour deux raisons. La première, c'est que nous avons des entrées en euros et en dollars qui sont bien sûr inférieures du moment que le franc suisse est fort. Et d'autre part, la cherté du franc suisse fait que beaucoup de compagnies aériennes viennent maintenant en Suisse chercher de la clientèle avec un pouvoir d'achat fort et avec des francs suisses comme monnaie de paiement.
Mais à l'inverse, le franc fort pousse aussi peut-être les Suisses à faire plus de voyages à l'étranger.
Oui, alors dans des moments comme ça, il y a toujours un revers de la médaille, mais dans ce sens ici, il est positif. C'est effectivement les Suisses qui vont à l'étranger, surtout dans la zone euro ou la zone dollar, on profite actuellement de cette faiblesse des monnaies étrangères. Et donc, nous avons un regain de voyages, surtout de voyages courts pour les week-ends, etc.
Merci beaucoup Jean-Claude Donzel d'être venu en direct dans ce journal porte-parole de Suisse invité par Simon Pité. Bon après-midi à vous, merci. La facture d'électricité des Genevois sera moins salée l'an prochain. Le gouvernement vient d'annoncer un rabais de 6,4% sur les tarifs proposés par les services industriels. Une baisse que les clients des SIG doivent au cours de l'euro, Virginie Mater.
Oui, car 40% de l'énergie achetée par les SIG sont payés en devises étrangères, en euros bien sûr, et compte tenu de la dégringolade de la monnaie européenne, les consommateurs pouvaient s'attendre à une baisse. 6,4%, ça paraît toutefois un peu faible, mais d'abord c'est une moyenne. Pour le privé, par exemple, la facture va baisser de 9%, alors que pour les grosses entreprises, il n'y aura qu'un pour cent de différence par rapport à 2011. En fait, les SIG précisent qu'il est impossible de répercuter l'ensemble de la baisse du cours de l'euro, notamment parce qu'ils achètent l'euro à un taux fixe, justement pour garantir une certaine stabilité des prix. Ils ne peuvent donc pas spéculer. De plus, les achats se font à long terme. L'électricité qui sera facturée en 2012 a été quasiment dans sa totalité achetée avant la fin 2010. Les mécanismes financiers mis en place par les SIG garantissent donc une stabilité des tarifs sur 3 ans. Donc si l'euro repart prochainement à la hausse, en principe, les consommateurs ne verront pas la différence avant 2015. Concrètement, pour les Genevois, c'est la 3e baisse consécutive des prix. Et depuis 2009, les tarifs d'électricité ont baissé de 16%.
Direction le Yémen maintenant, où un nouveau parti politique a discrètement fait son apparition en avril dernier, créé par Mohamed Abou Loum. Le Bloc pour la justice et l'édification, c'est son nom, est né après la fusillade devant l'université de Sanaa le 18 mars dernier, où 50 manifestations hostiles au régime en place ont été tuées par l'armée. Composé d'anciens ministres et de cadres du parti présidentiel en défection, le parti souhaite achever la révolution pacifiquement et ramener la stabilité dans le pays, Charlotte Velu.
Dans le salon, assis en tailleur, une trentaine de personnes attentives et disciplinées. Une trentaine de personnes qui représentent toutes les factions révolutionnaires au Yémen. Leaders des mouvements des jeunes, représentants de l'Union des professeurs d'université, chefs de file des partis sudistes, mais aussi Ali Al-Imad, membre de la communauté Houthi, en conflit ouvert avec le gouvernement depuis 2004.
Nous avons suspendu notre combat contre le gouvernement pour nous joindre au peuple yéménite et aux jeunes. C'est notre seule chance pour changer de régime et trouver un gouvernement qui nous représente tous. L'opposition politique n'est pas la solution. Nous n'aimons pas la façon dont elle gère la révolution.
principal reproche aux partis de l'opposition conjointe, l'utilisation du mouvement populaire pour s'emparer du pouvoir. Afin de combler le fossé entre la rue yéménite, le gouvernement et l'opposition, depuis quelques semaines, un homme travaille dans l'ombre. C'est d'ailleurs chez lui que se tient la réunion du jour. Son nom, Mohamed Abouloroum, exilé politique aux États-Unis pour son désaccord sur la politique menée par le régime de Saleh durant la guerre civile de 1994. Il rentre au Yémen il y a quelques années. Il rejoint alors le parti présidentiel pour le quitter en mars dernier et former son propre parti, le Bloc de la Justice et de l'Édification.
Le plus important pour nous, c'est de transférer le pouvoir au vice-président au plus vite, comme le recommande l'initiative du Golfe. Ensuite, on peut négocier les termes, comme la période transitoire. La feuille de route du Conseil de coopération du Golfe est la meilleure solution intermédiaire. Elle permettrait même aux jeunes de jouer un rôle d'observateur de sa bonne application. Si le président ne la signe pas, alors la situation va nous échapper et lui échapper.
Pour le moment, le parti de Mohamed Abouloroum ne compte que quelques milliers de membres et repose essentiellement sur sa personne. Mais il compte bien se faire connaître du peuple par ses actions et représenter les modérés lors des prochaines élections présidentielles.
Un reportage au Yémen signé Charlotte Velu.
Le 12-30, David Racana.
L'email serait-il déjà dépassé ? Le courrier électronique vient de fêter ses 40 ans, mais une étude américaine montre qu'il n'a plus la cote auprès des jeunes et que certaines entreprises commencent aussi à le bouder, Yana Medro.
Selon le cabinet Comscore, les adolescents américains ont diminué de 59% la consultation ou l'envoi d'e-mails l'an dernier. Une consommation aussi à la baisse chez les moins de 34 ans, moins 11%. Une tendance qui ne concerne pas que les États-Unis. En Europe aussi, les plus jeunes délaissent de plus en plus l'e-mail pour les réseaux sociaux comme Facebook, qui convient mieux à leur besoin d'échanger en direct avec leurs amis. Aux yeux de beaucoup, l'e-mail est donc devenu ringard. C'est un truc d'adulte, peut-on entendre dans leur bouche. Et du côté des adultes aussi, un certain désamour apparaît, notamment dans l'univers professionnel. L'email reste certes le moyen de communication numéro un au travail et sa disparition n'est pas pour demain. Mais pour les spécialistes de la communication interne, c'est aujourd'hui un outil dépassé. La société Atos en France a franchi le pas. Elle a annoncé la suppression du courrier électronique dans son entreprise d'ici à 3 ans au profit de son propre réseau social.
Jean-Luc Valente est avec nous en duplex de nos studios de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Blue Kiwi Software, une entreprise française qui développe justement les réseaux sociaux pour les entreprises. L'email en perte de vitesse, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous ?
Absolument. L'email, de plus en plus, est un facteur de ralentissement et de perte de temps, qui se traduit par un manque à gagner en termes de productivité pour beaucoup d'entreprises. Pensez aujourd'hui que en moyenne, un salarié passe de 5 à 20 heures par semaine à traiter ses emails. Et là-dedans, il y a énormément de choses qui soit ne sont pas désirées, soit n'ont aucune importance en fait pour ce salarié. Donc énormément de pertes de temps et de productivité.
Ce qui est plus surprenant, c'est que le courrier électronique soit aussi en perte de vitesse dans les entreprises. Elles font comment ?
Eh bien, encore une fois, elle regarde vers les réseaux publics ce qui s'est passé autour de phénomènes comme Facebook ou LinkedIn et s'inspire de ces solutions pour les adapter dans leur environnement. Cela devient un réseau social d'entreprise, ce que nous faisons chez Blue Kiwi, qui est privatisé, sécurisé et qui amène des fonctions surtout dédiées vers l'innovation, la communication interne avec ses partenaires et bien sûr la collaboration, qui est un point très très fort aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous proposez, vous, comme alternative à l'email concrètement ?
Eh bien, un réseau social d'entreprise, comme on vient de le dire, une solution qui s'inspire d'un Facebook ou d'un LinkedIn, mais qui est totalement contrôlée, sous le contrôle de l'entreprise, et qui intègre non seulement les salariés, mais aussi l'écosystème de cette entreprise, c'est-à-dire ses partenaires, ses clients, ses fournisseurs, ce qui permet de ne plus avoir à utiliser d'email.
Même pour contacter des gens à l'extérieur, parce que là, le système que vous proposez est privé, interne à l'entreprise ?
Alors, il est privé interne à l'entreprise, mais l'entreprise peut y inviter tous ses partenaires, tous ses fournisseurs, tous les acteurs qu'elle connaît, tous les prestataires avec lesquels elle travaille. Et donc, ces réseaux, comme sur Facebook, on vous y invite, bien sûr, via email. Mais une fois que vous y êtes, vous n'utilisez plus l'email.
Et au niveau de la sécurité, ça se passe comment ?
Alors, ce sont des systèmes qui sont très sécurisés, très contrôlés. Les clients que les acteurs comme nous ont sont de très grandes entreprises dans le domaine financier, dans le domaine gouvernemental, dans le domaine industriel, souvent pour traiter des sujets très délicats d'innovation ou de projets de développement. Et donc, les aspects sécurisés sont pris en compte de façon très, très drastique.
Est-ce que vous pensez que les jeunes ados d'aujourd'hui n'utiliseront plus du tout l'email quand ils entreront dans la vie active sur le marché du travail?
On l'espère bien, mais d'ores et déjà aujourd'hui, nous avons des clients qui n'utilisent plus l'email en interne. Des sociétés de 200 personnes jusqu'à 8000 personnes. Alors parfois, sur ces très grandes sociétés, ce n'est pas tout l'email qui disparaît, mais sur certaines activités, certains projets, l'email est aboli. Parce que l'email, entre autres, un des gros problèmes, c'est l'intelligence collective qui n'existe pas, puisque chacun dispose en fait d'une partie de l'information sur son environnement, sur son poste de travail, et cela ne répond pas aux exigences de l'entreprise.
Merci beaucoup Jean-Luc Valente d'être venu quelques minutes en direct dans ce journal depuis nos studios de Paris, PDG de Blue Kiwi Software, invité par Yann Amedro. Bon après-midi à vous, merci.
Merci.
Musique.
Tombent les petits papiers par terre, les capsules et les canettes, tombent les bouteilles de verre, les paquets de cigarettes. Je me balade en slalom, je marche sur un journal, je m'englue sur un chewing-gum, et vous trouvez ça normal? Tombent les bouteilles en plastique et me mettent plein la vue, il n'y a rien d'esthétique quand ça pue et ça pollue. Je me balade de travers, c'est un drôle de paysage, sous la crasse les prés verts et sous les déchets la plage.
Et cette voix, c'est la vôtre, Onésia Rittner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes valaisanne, vous avez 24 ans, vous venez de sortir votre premier album, le disque s'appelle D'accord. Vous serez demain soir en concert au Frauen Stimmen Festival de Brigand-Vallée. On va dire un mot d'abord sur votre parcours.
Mm-hmm.
Vous venez d'où? Vous faites quoi?
Donc, oui, je viens du Valais, de Monté, plus précisément. Et ça fait une année que je prends vraiment tout mon temps pour la musique. Et avant ça, j'ai fait une formation d'ingénieur du son en Angleterre et à Zurich.
Alors la musique, c'est pas nouveau pour vous, ça vous a toujours titillé. Cette formation d'ingénieur du son, c'était important pour arriver, on va dire, à exprimer votre créativité artistique?
Exactement, c'était une étape de plus qui pour moi faisait partie vraiment intégrante de la musique. Parce que j'arrivais pas à expliquer à des ingénieurs du son ou à des gens comment j'entendais mes chansons, en fait.
Vous signez la plupart des textes et des musiques de votre disque qu'on pourrait qualifier, on va dire, de sentimental, à part le titre là qu'on écoute en ce moment, Sous les déchets, la plage, aux accents, on va dire, assez écolo. Vous parlez beaucoup d'amour, Onésia Rittner, c'est ça qui vous inspire?
Oui, c'est vrai, l'amour en général, je suis quelqu'un de très optimiste. Et c'est vrai que j'aime bien voir les choses sous un angle lumineux, donc je parle d'amour en général, mais pas forcément d'histoire d'amour.
Vous avez remporté pas mal de concours de chansons, M4 Music Festival de Zurich, sur le site également musical de la SSR Amix 3. On va dire que ça marche plutôt bien pour vous?
Oui, c'est un bon départ. C'est une belle surprise, oui.
Vous avez aussi été sélectionné par Francis Cabrel, c'était en 2008, pour participer aux rencontres d'Astafort avec Émilie Loiseau comme marraine, rien que ça. Comment ça se passe, ces rencontres, concrètement? C'est des ateliers, des échanges?
Oui, alors on est entre guillemets enfermé dans le petit village de Francis Cabrel pendant une dizaine de jours avec des auteurs, compositeurs, interprètes qu'on ne connaît pas d'avance et on crée tout un spectacle. Ouais.
Et là, on vous donne des conseils sur l'écriture. C'est quoi les conseils pratiques que vous avez retenus de ce stage?
De savoir collaborer avec les autres, écouter les autres, ça c'était très intéressant. Mais en fait, on nous donne pas vraiment de grands conseils parce que on apprend vraiment en travaillant avec les autres. C'est incroyable, c'est une sorte de catalyseur. En 10 jours, on a énormément de choses qui se passent.
Votre disque, il a été enregistré chez vous en Valais. Vous êtes allé faire le mixage aux États-Unis. Pourquoi ce choix?
Alors, j'ai fait le mix chez moi, à monter. C'est moi qui l'ai fait. Par contre, j'ai fait le mastering aux États-Unis.
Ah, alors, expliquez-nous déjà la différence.
Alors, le mixage, c'est d'abord, il y a trois étapes, on pourrait généraliser. Il y a l'enregistrement. Mm-hmm. Ensuite, il y a le mixage, c'est-à-dire mélanger toutes les pistes ensemble. Par exemple, la basse, la batterie, régler les volumes et les effets. Et puis après, le mastering, c'est vraiment donner une couleur générale à l'album. Et puis, un petit peu faire qu'il sonne bien partout, dans la voiture ou chez les gens.
Et ça, c'était important de le faire aux États-Unis.
Oui, parce que j'avais fait une grande partie à la maison. Et puis, c'était vraiment avec cet ingénieur du son-là que j'avais envie de travailler.
L'un des titres de votre disque a été choisi par une production de Bollywood, en tournage en Suisse, un film indien dans lequel vous apparaissez. D'ailleurs, c'est un joli coup de pouce pour votre carrière. Vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé?
Ah oui, c'est assez incroyable et ça s'est fait vraiment en très peu de temps. Le 11 juin dernier, je participais à la boîte à musique sur la TSR. Et puis, il y a un des collaborateurs qui m'a proposé à une équipe justement qui tournait dans le canton de Berne et qui cherchait une chanteuse pour une scène. Et après, en fait, ils ont aimé mes musiques et du coup, ils ont choisi de prendre un de mes titres.
Sur les 12 titres de cet album, 4 sont en anglais. C'est pour tenter, pourquoi pas, d'exporter votre musique, on va dire, dans le monde entier?
Non, pas du tout. J'adore l'anglais, mais c'est parce que j'étais allée en Angleterre, cette langue me parlait, et surtout parce que c'est une histoire d'amitié. Ces 4 titres ont été coécrits avec une amie. Et c'est vraiment, c'était parce qu'elle adore aussi l'anglais, c'est vraiment partie d'une histoire d'amitié.
Pour vous, c'est plus simple quand même de composer en français qu'en anglais, ou les deux vous vont?
Les deux me vont. Je trouve que ça se complète bien, parce que quand on fait aussi des chansons en anglais, ça permet ça apporte des sons différents. Et du coup, les chansons prennent d'autres couleurs. C'est intéressant.
Le disque, il est sorti au mois de mai. Vous avez une idée déjà des ventes, du succès qu'il a rencontré, Onésia Rittner?
Non, j'ai des petites idées, mais on peut pas vraiment savoir. Mon distributeur a les retours plus. Il faut attendre quelques mois pour qu'il y ait plus de retours, mais moi je suis enchantée de l'accueil.
Vous avez dit que ça fait un an que vous vous consacrez à la musique. Vous confirmez ce que disent finalement la plupart des artistes suisses. Il faut percer sur le marché français pour arriver à gagner sa vie, vivre de sa musique. C'est trop petit comme marché, la Romandie.
Je sais pas, mais moi je vise pas forcément le marché français parce que j'adore les langues. Donc je vise le marché français, mais moi j'aimerais bien aller en Allemagne aussi, dans d'autres pays. Donc, pas forcément la France. D'autres pays, oui. Mais je planifie pas les choses comme Bollywood, c'est venu comme ça.
Et au niveau des concerts, vous avez, je suppose, des musiciens qui vous accompagnent quand vous tournez?
Oui, maintenant nous sommes en A3, en formule trio. J'ai Raphaël Pedroli à la batterie qui m'accompagne et Franco Mento aux machines et à l'électronique.
Alors on l'a dit, vous serez en concert demain du côté de Brigue-en-Vallée. Vous avez d'autres dates prévues pour faire la promotion de ce disque?
Oui, le lendemain, donc samedi soir, je vais aussi jouer à Valdilier. Et puis il y a des dates encore en août à Granges en Valais, et puis après il y a encore le Festival de Terre des Hommes, le Zikamart, et puis j'ai déjà des dates qui arrivent à Davos en Suisse et à Zurich pour l'automne.
Et vous pensez déjà à l'écriture d'un prochain album?
Oh non, j'y pense pas encore. Je suis sûre que ça viendra du jour au lendemain, on choisit pas vraiment. Mais là c'est tout frais, l'album est sorti le 19 mai, donc... Il faut lui laisser un peu de temps.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu quelques minutes en direct dans ce journal, Onésia Rittner. Vous serez demain sur la scène du Frauenstimmen Festival de Brigue-en-Vallée. Votre premier album s'appelle D'accord. Bon après-midi à vous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Un mot de la bourse pour vous dire qu'à la mi-journée, l'indice SMI est en baisse de 1,2% à 5831 points. Et il est temps de prendre des nouvelles du ciel. Avec Eric Fauchère.
Un couloir dépressionnaire continue d'amener sur notre pays de l'air humide, frais et instable. La couche nuageuse occupe le ciel de toutes les régions, sauf au Tessin, protégé par la barrière alpine. Cet après-midi, le temps restera tout d'alternance vêtue, passant de moments d'éclaircies, surtout en plaine, à des passages nuageux plus denses, pouvant amener quelques averses plus nombreuses sur les reliefs. Le mercure touchera 21 degrés au maximum. Demain, nous aurons droit à davantage de soleil. L'instabilité restant importante, cela contribuera au développement de cumulus sur les reliefs. Quelques averses isolées sont attendues à la montagne en seconde partie de journée, mais elles pourront déborder jusqu'en plaine. Le mercure touchera les 13 degrés à l'aube et jusqu'à 24 l'après-midi. Samedi s'annonce assez ensoleillé avec encore des passages nuageux partout et des cumulus à la montagne. Une averse n'y sera pas exclue. Dimanche sera bien ensoleillé et généralement sec. Lundi ne devrait compter qu'un faible risque d'orage en montagne en soirée. Sinon, c'est un temps bien ensoleillé qui nous attend.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention, merci de votre fidélité, merci à la rédaction, à l'équipe technique d'avoir contribué à sa réalisation. Demain, nous recevrons Mike Dinka, l'un des chanteurs-guitaristes du groupe de reggae Sinsémilia, de passage à l'estival open air d'Estavayer le Lac. Les Grenoblois sont à l'origine du fameux tube « Tout le bonheur du monde » vendu à 450 000 exemplaires, c'était en 2004. Ce journal de la mi-journée sera rediffusé dans quelques instants sur Espace 2. Excellent après-midi, il est 13h.